des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez
Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
On est en pré-enregistrement, on est jeudi aujourd'hui. Il fallait rejoindre notre chroniqueur Maître. On pourrait l'appeler Maître, mais non. L'analyste politique, politique américaine, Luc La Liberté. On parle évidemment du procès de Donald Trump qui a commencé aujourd'hui. Salut Luc, je te mettrai pas dans le trou avec le barreau en t'appelant Maître, mais on fait aux États-Unis là, c'est un procès, mais il y a beaucoup de politique dans tout ça là.
Ben voilà, ça rappelle hein, le déroulement puis les termes utilisés pour ceux qui représentent les deux camps, républicains ou démocrates, ou encore démocrates et Donald Trump. Il y a beaucoup de termes qu'on utilise qui sont des termes qu'on emprunte au droit. Par exemple, on va parler du côté des démocrates, des procureurs démocrates, ouais. Ceux qui sont chargés d'introduire la preuve puis d'étayer la preuve contre Donald Trump. Mais c'est effectivement, faut jamais l'oublier, une procédure qui est essentiellement politique. C'est-à-dire que peu importe la conclusion à laquelle on va en venir, quand on écoute les commentaires ou quand on écoute la preuve, reste que ça risque bien de se terminer selon essentiellement les lignes de parti.
Mm-hmm. OK. Et justement, rappelle-nous, là, parce que tout ça va se dérouler, là en ce moment, les démocrates font leurs preuves. Donc, c'est quoi un peu leur angle de stratégie, là?
Ben voilà, donc au départ, hein, ça s'est ouvert mardi de cette semaine. Le débat, moi, qui m'intéressait, il avait lieu là. Le reste, on l'avait déjà vu. Donc, on va en faire un spectacle un peu pour la galerie, là, plus pour convaincre l'ensemble des Américains que les sénateurs. Mais au départ, on débattait de la constitutionnalité de la démarche. Donc, grosso modo, on s'interrogeait sur deux angles. Un, est-ce qu'on peut poursuivre un président en destitution lorsqu'il n'est plus en fonction? Les gestes qu'on lui reproche ont été commis alors qu'il était président, mais c'est Joe Biden maintenant qui est en poste. Donc, on a voté, selon encore là les lignes de parti, avec quelques républicains quand même, on a voté pour dire oui, on peut le faire. On s'interrogeait aussi, puis on évoquait dès cette première journée où on débattait de la constitutionnalité, on s'interrogeait aussi sur la protection de la liberté d'expression. Est-ce que les républicains s'emploient à utiliser ces avocats, M. Trump, comme les sénateurs républicains? Plusieurs ont dit qu'il ne faisait qu'exercer sa liberté d'expression. Vous allez devoir faire la preuve, finalement, qu'il avait l'intention d'inciter ces gens-là à se soulever puis à attaquer le Capitole.
Ben oui.
Non, voilà, et c'est là où ça devient aussi intéressant dans la preuve. Toujours en sachant, bien sûr, que ça se joue quand même entre républicains et démocrates. Mais donc, on avait, après jeudi, on avait trois journées essentiellement où les démocrates étayaient leurs preuves. Eux vont jouer sur le fait que c'est carrément de l'insurrection à laquelle a incité le président. Et on n'a rien inventé de fait, mais on a joué la totale. C'est-à-dire que tout ce qu'on a entendu le 6 janvier, entendu et vu à la télévision, les discours du président, puis ensuite les mouvements de foule, les mouvements de ses partisans qui sont parvenus à entrer au Capitole, c'est très clair qu'il y a un lien entre les deux. Donc, les démocrates ont joué là-dessus. La preuve, elle est assez accablante.
Pour eux, c'est une forme de préméditation de Donald Trump?
Ben voilà, c'est carrément, il est responsable. Ce qu'on fait ressortir, là, il y a des enregistrements qui sont disponibles d'ailleurs, des montages qu'on a fait. Les montages sont réalisés, bien sûr, par l'équipe démocrate, mais tout ça, ce sont des faits, des images qu'on a pu voir le 6 janvier ou encore qui ont circulé après, parce que les manifestants ont eu la bonne ou la mauvaise idée pour eux de se filmer en train d'attaquer le Capitole, puis on les entend s'exprimer. Ouais. Et on fait jouer du côté démocrate, c'est assez habile, hein, si on veut marquer les esprits, ben on fait jouer les propos du président, on l'entend. Et ensuite...
Là, est-ce qu'il est scindé? On appelle ça en droit être scindé, prendre un bout d'un discours, par exemple, qui fait notre affaire. Puis couper celui qui ne fait pas notre affaire. Est-ce que ça ressemble à ça?
C'est-à-dire que dans le cas de Donald Trump, on n'aurait pas grand-chose à couper parce que le président, dans son discours, ce qu'il faut démontrer, c'est « j'avais l'intention que ce soit violent ». Mais c'est très clair dans les propos du président qu'il leur demande de renverser le résultat de l'élection. Maintenant,
mais il ne dit pas, mais c'est moi que... Il me semble que j'ai entendu qu'il dit ça, de faire ça en paix ou peacefully. Ça se peut-tu ou...
Ça, il va faire cet appel après. Au calme très, très modéré puis très prudent. Il va le faire après.
Okay.
Et ce que je disais, donc, c'est que le découpage était... C'est très difficile de présenter ça avantageusement pour Donald Trump. Et donc, on entend ses propos, mais ensuite, ce qui est intéressant dans la preuve démocrate, c'est qu'on entend les gens attaquer le Capitole en disant carrément « on fait ce que le président vient de nous demander de faire ». On dit même aux agents de sécurité qui étaient là ou aux représentants des forces de l'ordre « c'est votre boss qui nous demande de faire ça ». Le boss, bien sûr, la référence étant au président des États-Unis. Donc, on a des sénateurs républicains et démocrates qui vont être les juges, hein, probablement qu'on va voter. Ce serait étonnant en fin de semaine, c'est pas impossible. Peut-être lundi. Mais donc, quand on va se prononcer, républicains et démocrates ne peuvent pas dire « ce qu'on voit là est acceptable ».
Ouais, mais voir. Ça, on va arriver, Luc, à la fin, on va parler des possibilités, les chances, mais dans l'argumentaire, je veux dire, puis là, je prends pas parti, mais je m'amuse, on s'amuse un peu.
Bien sûr.
Parce que Donald Trump n'a jamais demandé de faire ce qui a été fait. Là. Lui, c'était plus dans, si je me rappelle bien, c'était très vague ce qu'il disait. Il a pas dit « allez maintenant marcher sur le Capitole ».
Voilà, ce qu'il dit, hein, grosso modo, c'est « aller manifester au Capitole and fight like hell », en anglais. Donc, hein, débattez-vous, il faut combattre. Si on veut la survie de notre pays, de notre régime, si vous voulez encore avoir un pays, il va falloir se battre. Maintenant, on le sait très bien, ça peut être une figure de style. Et c'est l'argumentaire qu'utilisent les républicains.
Okay.
Tout le monde, il n'y a personne qui va dire ce que les manifestants, ce qu'on les a vus faire, c'est intolérable. Il faut éviter que ça se reproduise. Ce que disent les républicains, c'est malgré ce que les démocrates font jouer, il faudrait déterminer l'intention de Donald Trump et a-t-il prononcé les mots exacts qu'on lui reproche, ce que ça a donné dans les résultats. Donc, ce qu'on essaie de montrer du côté démocrate, c'est écoutez, ça faisait des semaines qu'il remettait l'élection en question, qu'il disait qu'il avait été victime de manipulation, de fraude électorale, puis qu'il fallait renverser le résultat. C'est ce que ces manifestants disent vouloir faire au nom du président. Mais les républicains, certains, bien sûr, qui ont encore, qui ne peuvent pas se passer des électeurs de Donald Trump, ils vont pas le pointer du doigt.
Non.
Donc, ils vont dire, c'est inacceptable ce qu'on a vu, mais dites-nous que c'est autre chose que la liberté d'expression.
Moi, je plaiderais ça.
On a dit d'ailleurs, François David, puis ça, j'imagine que pour un avocat, c'est encore plus de punch que pour l'historien. ce qu'on a dit, déjà, c'est vous devez prouver l'intention et les mots justes. Et ça, c'est le premier amendement à la Constitution qui veut ça. Sinon, ce qu'on a dit, c'est quel politicien n'a pas déjà prononcé un discours enflammé dans lequel on utilise des images, mais ce ne sont que des représentations, hein? On n'est pas dans le concret. Donc, c'est vers ça que se retranchent à la fois les avocats du président et les sénateurs républicains. Certains d'entre eux ont déjà dit qu'ils allaient voter. Ouais. Contre la destitution.
Moi, je plaiderais deux choses. Celle-là, ça, c'est un bon angle parce que je pense pas qu'il a dit textuellement marcher sur le Capitole, soyez violent. S'il avait fait ça, c'est certain qu'il serait responsable, mais il peut pas être respi. On sait en plus que sa base elle peut s'enflammer plus que lui pourrait le faire. Puis l'autre élément que je plaiderais, que là, je suspecte que c'est ce qu'ils veulent faire politiquement parlant. Je tablerais sur, on fait pas indirectement ce qu'on peut pas faire directement, de vouloir destituer un président qui n'est plus en fonction. La seule volonté de ça, c'est faire qu'il ne se représente pas. Et là, c'est une atteinte à la démocratie parce que s'il se représente pas, ben, tous les électeurs qui voudraient voter pour lui sont privés de le faire. En tout cas, j'irai là.
Oui, puis, tu vois, t'as utilisé les bons termes aussi. Les avocats de Donald Trump, ce qu'ils invoquent, c'est idéalement, là, en démocratie, on laisse la population se prononcer et regardez, elle vient de se prononcer. C'est Joe Biden qui est président. M. Trump n'a pas été réélu. Donc, il a déjà eu sa sanction au plan démocratique. Il a été battu. Ce que la carte que jouent les démocrates ensuite, elle est très émotive parce qu'on veut faire de l'effet. L'autre carte, c'est il faut quand même qu'on le poursuive parce que si on ne réagit pas à ce que fait Donald Trump comme président, puis en incitant des foules à aller manifester, puis ça tourne à la violence, c'est comme faut mettre ce qu'on appelle c'est la ligne rouge qu'on trace dans le sable pour dire on peut pas se permettre d'aller au-delà de ça. C'est indécent de la part d'un président de se comporter de la sorte.
Ouais.
Donc, tous ces arguments-là sont sur la table.
Puis de l'autre côté, Luc, on va dire oui, mais par contre, justement, si ce qu'il a fait, c'est pas correct, ben l'électorat va le décider. Va décider s'il y a un président a bien agi.
Mais si je suis un avocat démocrate, je vais te répondre, François David, ce bout-là est tout à fait vrai, puis dans le meilleur des mondes, ça ne se règle qu'en dans la démocratie. Mais pourquoi alors les penseurs auraient-ils mis la procédure de destitution dans notre système si on est dans l'incapacité de s'en servir parce qu'on veut toujours laisser la population se prononcer? La procédure de destitution est justement là au cas où, dans l'intervalle, entre deux votes de la population, un président commette des gestes qui sont inadmissibles. Ouais.
Mais moi, je répondrais, dans l'histoire, lorsqu'il y a eu des décisions, c'était sur des événements très tranchés quand même. C'est rare qu'il est allé dans un flou sur... Tu sais, je comprends l'atteinte de dire que l'élection n'est pas valable. C'est sûr que c'est comme un juriste, je fais le parallèle, on ne peut pas démolir le système, sinon on va se faire radier. On ne peut pas dire le système, c'est de la M, là. Je comprends. Dans le fond, le président peut l'atteindre, c'est ça. C'est qu'il n'a pas seulement critiqué le système, mais il l'a carrément renié là, en disant qu'une élection, c'est de la fraude, puis tout ce qui était fait, c'est de la fraude. Peut-être, là, ça peut être tranché, mais pour la levée au Capitole, c'est désastreux ce qui est arrivé, mais je vois mal qu'on peut lui attribuer directement...
Voilà, c'est très, très, très... C'est là où même, devant un tribunal, il y aurait vraiment un enjeu, il y aurait véritablement un débat sur cette question-là. Puis ça, ce bout-là, tu l'as vécu, tu le vis, tu l'as étudié beaucoup plus que moi. Donc, devant un tribunal, c'est la preuve, c'est l'intention puis les mots exacts qu'on remettrait en question. Moi, ce qui me déçoit comme prof, parce que j'enseigne tout ça, après j'entre en classe puis je dis, ben voici ce que la Constitution dit ou ne dit pas, c'est que dans un processus partisan, finalement, on ne va pas trancher un certain nombre de choses qu'on devrait trancher dans la Constitution américaine. Par exemple, quand on en est encore sur des interprétations, à savoir, peut-on poursuivre ou continuer à poursuivre un président en destitution quand il n'est plus là, les constitutionnalistes ont presque tous dit on a le droit de le faire. Okay. Mais c'est pas écrit nulle part. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on constate qu'il existe des flous, hein, qu'il existe des creux, des zones d'ombre dans la Constitution américaine. Moi, j'aimerais ça qu'on éclaire ensuite le contenu de la Constitution. Malheureusement, ça, on ne le fera pas.
Non,
on a entendu les avocats des deux camps, mais on n'a rien tranché sur cette question.
Parce que de toute façon, on n'a pas le temps de l'expliquer, on en reparlera. Le vote sera politique. Est-ce que 12 républicains vont défroquer, je pense, c'est ça le chiffre? Là? Est-ce
qu'il C'est-à-dire qu'il y en a déjà 5 dont on pense. Il en faut 17 des républicains au total qui votent.
Mais il y en a 5 qui pourraient, là. Ouais.
C'est okay. Ça. Il y en a 5 dont on s'attend à ce qu'ils votent pour la destitution, mais il en manque donc 12 autres.
Ouais.
Et 12 autres, d'ici à la fin de semaine ou à lundi prochain, écoute, je serais prêt à parier quand même pas mal pour dire Donald Trump va s'en tirer une deuxième fois.
Ça prendrait des... Justement, il reste la plaidoirie. En tout cas, ça prend des méchants avocats pour changer l'opinion de 12 républicains. Merci beaucoup, Luc. C'est tout le temps qu'on avait. Très intéressant. Bon, on suit ça avec attention, mais on s'en repart.
Parfait. Bonne fin de journée. Salut aux auditeurs. Bye.
Bye.